Et vous écoutez France Culture. Grave, c'est la gravité, au sens physique du terme. Quelque chose qui nous tombe dessus, nous cloue au sol, un poids que l'on porte tous. Julia Ducournau. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, essentiellement consacré ce soir à Grave, film-événement de Julia Ducournau, à voir sur les écrans à partir de mercredi, faits divers, cannibales et tragédies contemporaines, réflexions sur la chair et la pulsion amoureuse, récits d'initiation au corps, à l'amour et à la mort. Son auteur a accordé à Mauvais genre un long entretien que nous diffuserons ce soir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Mauvais genre bien entièrement centré, donc je le répète, sur le film de Julia Ducournau qui sort en salle mercredi, Grave. Elle nous a reçus, on la remercie, également Mathilde Incerti pour la part qu'elle a prise dans l'organisation de cette rencontre, une rencontre que j'illustrerai de riches propos avec Philippe Rouillet.
Bonsoir.
Comment va Philippe Rouillet ?
Mais très bien, parce qu'alors on a une semaine cinéma formidable, parce qu'on a Grave mercredi, et puis on a aussi le film de James Gray, qu'on attendait beaucoup, de Lost City of Z, où James Gray, qu'on connaît avec La Nuit nous appartient, Little Odessa, The Yard, s'ouvre au film d'aventure. En rappelant les aventures exotiques de Fawcett, l'explorateur, voilà. En Amazonie. Et ce qui est très intéressant, c'est voir comment James Gray prend possession du film d'aventure pour en faire quelque chose de très personnel. C'est-à-dire que, d'une part, il y a un film de jungle, mais on n'est pas chez Herzog. Il y a ce côté, je suis en Amazonie et je pense à l'Angleterre. Et en fait, il y a trois campagnes d'expédition et trois retours en Angleterre, avec sa femme, ses enfants et le déchirement qui s'ensuit.
Un film qui sort en salle donc mercredi. Puis si vous êtes intéressé par la saga du colonel Fawcett, je rappelle un livre paru chez Robert Laffont de David Gran, et puis un livre à paraître aux éditions Pygmalion. Bonsoir Fausto Fazulo.
Bonsoir François.
Rédacteur en chef de Mad Movies et de Atom, la revue sur les mangaka.
Absolument.
Vous confirmez les bonnes impressions de hebdomadaire de Philippe Rouillet, Fausto Fazulo?
Je les confirme totalement. Effectivement, The Lost City of Z est un film magnifique. Et on peut effectivement mettre ce film aussi en parallèle avec la carrière de James Gray. D'autant que c'est l'histoire d'un personnage qui repart au turbin constamment, qui parfois échoue, qui repart, qui tente des choses. Voilà, en gros, la vie d'un cinéaste.
Et trouver l'Atlantide, ça, c'est du turbin.
C'est clair.
Alors, on attendra sans doute la sortie en DVD de ce chef-d'œuvre pour lui faire toute la part qui lui revient. En attendant, eh bien, comme tous les samedis, nous allons ouvrir avec Céline Duchesnay l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Et quelle est la lettre ce soir, ma chère Céline ?
La lettre ce soir, c'est la lettre G, comme Génaud, Yves Noël Génaud.
Proust est complètement mauvais genre, on ne peut pas faire plus mauvais genre, parce qu'il est juif.
Oh, pardon, excusez-moi.
On coupera. Je répète. Sur la question du mauvais genre, on ne peut pas faire plus mauvais genre que Proust. Il est juif, homosexuel, artiste. Et on peut même rajouter génie. C'est-à-dire que dans une solitude, un isolement absolu, un exil, une espèce de sa... Mais en plus, c'est une star, donc il se comportait comme une... C'est une star parce qu'il se comportait comme une star, donc il y a tout ce qu'on peut imaginer de maniaquerie, de folie, de névrose, d'apparition en pleine nuit dans des bordels ou dans des palaces, à boire quand même quand il a la pneumonie, il se soigne qu'en buvant des bières glacées, enfin tout est une fantasmagorie de dandy. Au cube, quoi. Et le soir, il ne dînait pas à l'hôtel où les sources électriques faisant sourdre à flot la lumière dans la grande salle à manger, celle-ci devenait comme un immense et merveilleux aquarium devant la paroi de verre duquel la population ouvrière de Balbec, les pêcheurs et aussi les familles de petits bourgeois, invisibles dans l'ombre, s'écrasaient au vitrage pour apercevoir, lentement balancée dans des remous d'or, la vie luxueuse de ces gens, aussi extraordinaire pour les pauvres que celle de poissons et de mollusques étranges.
Le metteur en scène et comédien Yves-Noël Génot est entré en religion. Son dieu s'appelle Marcel Proust, car comme il l'explique si bien, quand on apprend la religion de Proust, on devient religieux pratiquant, on lit et relit sans fin la Bible de la recherche. J'ajouterais aussi qu'on a envie de partager cet amour avec le plus grand nombre, ce qui a donné lieu à un spectacle intitulé « La recherche » où Yves-Noël Génot, en solo, lit des extraits de Proust tout en y insérant des commentaires, une sorte de va-et-vient entre le texte et le comédien qui fait résonner l'œuvre de Proust dans nos vies actuelles.
Oui, parce que c'est un personnage tellement hors du commun. Enfin, il y a cette émission Portrait Souvenir où il y a des gens qui l'ont connu, qui témoignent. Et il y a un condisciple de lycée qui dit, Daniel Halévy, on lui demande comment était Proust et il dit, il était si singulier que j'hésite même à vous répondre. Et tous les portraits qui ont été faits sont des portraits d'un homme presque irréel, quoi. Colette disait qu'elle, pour elle, cette Proust, c'était comme un prophète, parce qu'il voyait plus profond et plus loin que les autres. Et c'est surtout ça qui en fait quelqu'un de mauvais genre, c'est pas finalement, c'est cette histoire du génie, de l'isolement, comme ça. Les génies sont seuls, hein, avant de rencontrer éventuellement d'autres génies. J'ai rencontré Depardieu il y a un an et demi, une soirée au mois d'août magnifique, par hasard, un genre de soirée qui peut exister qu'au mois d'août, où tout d'un coup les gens se rencontrent quand il n'y a plus personne à Paris, et tout le monde, vous savez, hein, c'est, j'adore. Et il m'a dit, c'est pas facile d'être un génie. Quand il y a Depardieu qui vous dit ça, on se dit, oui, c'est vrai, ça ne doit pas être si facile. Bon, c'est des rencontres, mais avant de faire ces rencontres, il y a une solitude très grande, ouais. Parce qu'ils ne sont pas nombreux, les génies.
En attendant qu'Yves-Noël Génot n'enfile à nouveau les habits de Marcel Proust sur scène, vous pourrez le retrouver à Paris, à la Ménagerie de Verre, du 14 au 16 mars, où il proposera La beauté contemporaine, un projet qui réunit son amour pour la recherche du temps perdu, avec une allégorie sur la jeunesse d'aujourd'hui. Et puis, mon cher François, si vous me permettez un dernier petit conseil...
Je permets, vous savez, on permet tout dans cette
émission. Surtout, mais c'est pour prolonger l'instant Proust, allez faire demain, dimanche, un tour à la Paris As Book Fair, qu'on pourrait traduire littéralement par la foire des livres de cul de Paris. Ça se tient à Art Factory, rue de Charonne, Salé, parce qu'au programme, ce sont des fanzines, livres d'artistes, bandes dessinées et littérature qui parlent de cul, de sexe, de genre, sans compromis. Il y a même deux expositions, dont une avec Tom de Pékin et tout Tom, et l'autre est intitulé Queer Zine. Donc ça finit demain et c'est de 13h à 19h.
Je vous y serai chez vous, chères auditrices et chers auditeurs. Merci Céline pour cette entrée. Yves-Noël Génot de l'Encyclopédie pratique des mauvais genres. C'est dur d'être un génie, Philippe Rouillet.
Ah oui, 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 ben ça...
Vous confirmez, Philippe?
Vous confirmez cette impression, c'est très, très difficile. Une question qu'on aurait également pu poser, mais ça n'a pas été le cas, peut-être pour d'autres films futurs, à notre invité de ce soir, donc il va être Julia Ducournau. Mais avant cela, Fausto Fazzullo, petit hommage, enfin, grand coup de chapeau et petit hommage à Seijun Suzuki.
C'est Jun Suzuki. Alors, pour en parler, il faut peut-être essayer de recontextualiser le personnage et peut-être essayer de donner un aperçu forcément réducteur de ce qu'il était, à savoir une espèce de mix sous acide entre Samuel Fuller et Jean-Pierre Melville. Si on devait évoquer quelques chiffres, c'est Jun Suzuki, c'est 53 films, donc 42 réalisés pour la Nikkatsu. Donc, c'est une grosse carrière, mais une carrière qui aurait pu être encore plus importante s'il n'avait pas été forcé à faire une pause pendant 10 années suite à la sortie de La marque du tueur. Qui a été effectivement un grand choc esthétique et aussi un grand choc pour la Nikkatsu qui a produit et qui a viré son metteur en scène, ce qui lui a valu d'être blacklisté en fait de tous les studios nippons pendant 10 ans et de faire de la publicité et un peu d'animation. Voilà. Seijun Suzuki, c'est quelqu'un qui à l'origine en fait ne se destinait pas au cinéma. Il voulait entrer dans une école de commerce. Il a échoué en fait à l'examen d'entrée et finalement il s'est dirigé vers l'examen d'entrée de la Shochiku, donc un studio de production japonais qui lui permettait en fait d'accéder au poste d'assistant réalisateur. Il a pu accéder au poste d'assistant réalisateur. Il a fait ça pendant 7 ans et puis les promotions étaient difficiles à obtenir. Il est finalement parti en fait du côté de la Nikkatsu qui lui proposait de gagner 3 fois plus et d'accéder enfin au statut de metteur en scène. Et il a réalisé donc 42 films pour la Nikkatsu. La Nikkatsu, faut savoir qu'elle était spécialisée en fait dans les films à destination d'un public assez jeune. Donc c'était des films qui étaient assez pop, enlevés, des thrillers, des films d'action. Il en a fait beaucoup. Il a eu un acteur phare, à savoir Joe Shishido, qui est probablement l'un des comédiens qu'on lit le plus à son œuvre. Et c'est vraiment un suprémaciste de la forme. C'est quelqu'un qui est spécialiste dans l'explosion chromatique. C'est quelqu'un qui joue avec les genres. C'est un cinéaste spécialiste du métissage des genres dans un premier lieu, mais aussi des comédiens. Quand il fait tourner quelqu'un comme Joe Shishido, c'est intéressant puisque c'est un acteur japonais qui essaye de ressembler physiquement à un acteur occidental. Quand il fait tourner une actrice comme Anu Mari, par exemple, qui est une actrice indo-japonaise, il y a encore cette volonté de métissage. Donc voilà, c'est un formidable triturateur de formes, et c'est quelqu'un qui a influencé aussi bien des metteurs en scène japonais, déjà de par son aspect rebelle, que des réalisateurs occidentaux, Jim Jarmusch notamment. On l'a beaucoup lu dans la presse récemment. Voilà.
Philippe ? Oui, bah Jim Jarmusch, c'est carrément sur La Marque du Tueur, parce qu'en fait, dans La Marque du Tueur, il y a ce plan incroyable où le personnage se fait tuer alors qu'il se lave les mains, parce que le tueur est en dessous dans les canalisations, et la balle passe par les canalisations, et paf, saute. Et c'est ce plan que Jarmusch a repris dans Ghost Dog. Parce que ce qui est fascinant, en fait, dans la carrière de Suzuki, c'est que il fait tous ses films, mais c'est entre 63 et 67 qu'il y a le cœur de son cinéma. C'est-à-dire entre Détective Bureau 2-3 et suivi tout de suite par La Jeunesse de la Bête, jusqu'à La Marque du Tueur, où là il fait en fait ses films les plus pop, les plus fous, qui sont vraiment une sorte de réinvention formelle du cinéma de Yakuza. Et c'est l'incompréhension de la Nikkatsu qui va le faire virer, et c'est pour ces films-là qu'aujourd'hui on l'adore dans les cercles de la cinéphilie.
Alors pour découvrir ou redécouvrir Suzuki, des DVD parus jadis chez HK Vidéo, devenus fort rares.
Ah bah, trois...
Si vous les avez, dormez avec.
Ah, ça c'est clair, trois très beaux coffrets, effectivement.
Trois coffrets de trois, ouais.
Voilà, qui pour le coup, comme le disait Philippe, encadre parfaitement la partie de sa carrière la plus spectaculaire d'un point de vue graphique, donc c'est-à-dire le début des années 60, milieu des années 60. Et puis, si vous voulez essayer un petit peu de pousser plus loin, il y a aussi quelques imports qui sont disponibles. Pareil, c'est pas évident, mais on peut les trouver, notamment un coffret Criterion, Nikkatsu Noir, donc les films noirs de la Nikkatsu, où à l'intérieur de ce coffret-là, il y a un film de Suzuki de 1960.
Et aujourd'hui, comme dans pas mal de cas, eh bien c'est Elephant qui a repris le flambeau
qui nous offre cinq films
de Suzuki entièrement.
Avec des Blu-ray.
Remasterisés. Donc c'est la belle collection pour découvrir donc ce réalisateur hautement mauvais genre. Merci, messieurs. Sunshine, choix de Laurent Polleret pour lancer la playlist carnet de ce soir, l'émission gravissime, puisque nous évoquerons, grâce à un long entretien, eh bien Julia Ducournau et son premier long métrage Grave en salle mercredi. Alors, présentation Philippe et de la cinéaste elle-même et de son œuvre et puis de ce film dont il nous faut un peu résumer l'intrigue parce qu'après... On est parti.
Alors, Julia Ducournau, c'est une jeune réalisatrice française. Elle est née à Paris en 83. Ses parents sont dans la médecine. Ils sont dermatos et gynécologues. Et en fait, elle va baigner dès l'enfance dans les histoires, mais comme on peut raconter les médecins, c'est-à-dire des choses parfois atroces, mais avec une énorme distanciation vis-à-vis de la mort et de la maladie. En fait, elle dit qu'elle a un peu fantasmé sur les histoires de ses parents, les livres aussi qu'ils ramenaient à la maison. Et puis, à côté de ça, c'est des parents très cinéphiles avec des dîners cinéma. C'est comme ça qu'elle va découvrir tout Hitchcock, y compris Psychose à 7 ans, Franju, un certain nombre de classiques. Et puis, par hasard, alors que ses parents l'ont emmené à un dîner d'amis, où on la met de côté pour regarder des dessins animés, elle va zapper et tomber sur Massacre à la tronçonneuse. Elle a 6 ans.
C'est très formateur.
Et voilà, et elle ne sait pas ce qu'elle voit, mais en fait, la seule chose qu'elle dit, c'est qu'elle ne fuit pas. Elle ne fuit pas, et c'est plus tard, à l'adolescence, quand elle va se tourner ostensiblement vers le cinéma de genre, qui ne faisait pas partie vraiment de l'éducation de ses parents, le pur cinéma de genre, Argento, etc., qu'elle va tomber sur les images de Massacre à la tronçonneuse et qu'elle fera le rapprochement et qu'elle découvrira ce qu'elle a vu. En tout cas, dès l'enfance, Elle aime ça et elle se dit qu'elle aimerait faire son métier de raconter des histoires et donc être écrivain. Et c'est en fait en Cagne qu'elle s'aperçoit que la FEMIS ouvre un département scénario et qu'elle se dit que ce serait peut-être une bonne solution d'écrire des scénarios plutôt que d'écrire des romans parce que nous sommes pour des questions financières. On sait, et nous aussi, à mauvais genre, le sort des écrivains qui donnent dans le genre et qui parfois du mal à boucler les fins de mois, les scénaristes. Alors donc elle va faire la FEMIS, elle va être reçue et elle explique bien d'ailleurs que le stéréotype du film FEMIS qui serait film d'auteur, etc., a été complètement battu en brèche. Et c'est vrai que quand on regarde la liste des auteurs FEMIS, de François Ozon à Noémie Ilovski, Marine Adevant, on peut pas dire que c'est que du cinéma formaté. Et Julia Ducournau en est un autre exemple. Et c'est par la FEMIS qu'elle découvre que écrire un scénario, c'est bien, mais ça ne suffit pas, qu'il faut aller jusqu'au bout du geste si on veut être fidèle à ses idées. Donc il faut passer à la réalisation. C'est comme ça qu'elle va faire un premier court-métrage en 2011 qui s'appelle Junior. Et si je vous en parle, c'est parce que Garance Marillier, qui est l'actrice de Junior, se retrouve être l'actrice principale de Grave. Et on peut vraiment considérer que Junior, c'est pas un brouillon, mais ça raconte comment une enfant devient une adolescente. Comment une fille un peu boutonneuse, des lunettes, etc., va devenir une sorte de bombe dans son collège. Et après une opération très fantastique, c'est-à-dire qu'elle va changer de peau littéralement, il y a une scène dans le bain avec où vraiment ça pose... Bref, c'est l'illustration du complexe du homard chez Adolto. Et on pourrait, en ce sens-là, voir Grave comme une sorte de suite, c'est-à-dire comment l'adolescente va devenir femme. Elle s'appelle d'ailleurs également Justine, par rapport à Sad. Et alors, Grave, c'est pas un film d'horreur en particulier, c'est un film, définit ça comme un crossover, c'est-à-dire que c'est un film qui a un teen movie, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui arrive dans l'école vétérinaire, et donc, c'est le début de l'année, c'est le bizutage. Et le film commence avec le début du bizutage, enfin, l'arrivée à l'école, et se termine à la fin du bizutage. Et au milieu de cette violence, qui est une violence chorégraphique mise en scène, il y a la véritable initiation du personnage qui est végétarienne et qui, lors du bizutage, doit ingurgiter un rein de lapin cru. Et c'est ce rein de lapin cru qui va être une sorte de révélation de sa véritable nature, non seulement de carnivore, mais de cannibale. Et s'ajoute à ça la relation avec sa sœur aînée qui est déjà à l'école. Et c'est aussi un film sur la sororité. Donc, il y a tous les thèmes du teen movie en même temps que le body horror. Et puis, la construction dramatique,
donc l'horreur charnelle,
voilà,
telle viscérale,
telle que l'a pu la pratiquer Cronenberg dans ses jeunes années, et en même temps la conjonction de tous ces éléments aboutit à une sorte de tragédie qui renvoie aussi à un déterminisme familial et qui donne une réelle émotion dans tout le dernier tiers du film. Donc c'est ce mélange là qui est Carne, et ce serait vraiment réducteur de le réduire à un pur film de genre. Ce serait grave. Et d'ailleurs, l'entretien qui suit, on s'est bien gardé d'enferrer notre Julia Ducournau dans le simple registre du genre. Alors, on écoute la première question qui est posée par vous, François.
Alors, première question, première séquence, premier plan, celui qui ouvre votre film. On y voit une route départementale, enfin en tout cas une route comme il y en a beaucoup, une voiture qui approche et brusquement quelque chose se passe qui fait que cette voiture percute un arbre. Et cette chose qui vient de se passer, on ne sait pas si c'est un jeu pervers qui tourne mal, si c'est un acte de chasse ou est-ce que c'est autre chose. Donc on commence par un plan étrange puisque la silhouette après qui se détache des fourrés pour aller vers la voiture accidentée, où on devine que le conducteur, lui, est définitivement accidenté, elle a une manière étrange de marcher. Elle se précipite d'abord, comme un chasseur vers sa proie, et après elle ralentit, comme pour passer dans une sorte de rituel. Donc là, je crois qu'en un premier plan, où il y a toutes les dimensions du film, ludique, rituel et mythique.
Eh bien, oui. C'est justement analysé. C'est vrai que moi, dans cette ouverture, il y avait plusieurs choses. Alors, l'idée de la chasse, comme l'avait dit, est évidemment présente. C'est aussi, pour moi, le moment de la définition du monde à venir, puisque j'ai utilisé des plans très très larges, comme dans les westerns, et j'ai souhaité donner quelque chose, voilà, l'idée de la rencontre, comme ça, une espèce de showdown entre cette fille et cette voiture, et de l'impact que ça a créé quand ils se rencontrent. de la même manière que le gentil et le méchant se retrouvent à la fin du western, quoi. Donc du coup, pour moi, la western, c'est vraiment la découverte du nouveau monde, et c'est ça, à travers ces plans larges, à travers cette nature-là, complètement à la fois anonyme et inquiétante, que j'essaye de situer mon récit.
Sauf que là, dans les westerns, on décode assez facilement, puisqu'il y a un décor pour le western, il y a des personnages qu'on reconnaît. Là, on ne comprend rien. On est dans une opacité, on est face à un récit qui est indécodable et incompréhensible et qu'on prend vraiment comme la voiture dans l'arbre de plein fouet.
Oui, c'était le but.
En fait, on découvre après coup que c'est un flash-forward, ou pas ?
Non. Pour moi, c'est pas du tout un flash-forward.
D'accord. Mm-hmm. Donc, ça appartient au passé. Cette situation va revenir. Mm-hmm. Mais ce qui est d'autant plus difficile à décoder, c'est qu'après, on part sur autre chose. C'est-à-dire que le plan suivant n'est pas l'immédiate suite, qui est donc posée comme un blason.
Oui.
C'est-à-dire que avant que l'histoire commence, il y a ça. C'est-à-dire qu'avant que l'héroïne arrive dans l'Ouest, enfin arrive dans le nouveau monde est déjà là.
Oui.
Et sa jungle est déjà là, en quelque sorte.
Ses règles, surtout. C'est vraiment histoire de poser des règles, histoire de poser un modus operandi, évidemment, aussi. Je précise que ce n'est pas un flash-forward, tout simplement parce que ce n'est pas la même voiture, et je n'en dirai pas plus. Et donc c'est quand même dit dans le film, ce n'est pas moi qui interprète. Et c'est vrai que, oui, alors c'était important pour moi d'avoir cette rupture, justement, entre les deux univers, et parce que j'aime bien l'idée de créer une tension, de créer une anticipation, une appréhension plutôt qu'une anticipation, chez les spectateurs qui se demandent comment ces deux univers-là vont bien pouvoir se rejoindre à un moment dans le film. Et donc, on reste sur nos gardes, on reste actif et on cherche les pistes. Et c'est ça que j'essaie de créer à ce moment-là.
Moi, quand j'ai vu le film la première fois, j'ai eu une piste qui était la piste Franju. Ce plan m'a évoqué la manière de filmer la route dans Les yeux sans visage. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez en tête au moment de construire le plan ou pas ?
Pas du tout. Même si j'adore ce film Les yeux sans visage, mais j'ai pas du tout pensé à ce film à cet endroit-là. Pour moi, vraiment, j'essayais de reproduire une sorte d'archétype de western avec la tension que ça implique, la temporalité que ça implique, surtout le temps et l'espace, dans le traitement du temps et l'espace. J'ai pas du tout pensé à Franju, mais par ailleurs, c'est un film qui est une référence aussi pour moi à plein d'endroits, mais pas à celui-là.
Ensuite, on découvre le premier groupe auquel on va avoir affaire dans ce film, c'est la famille. Et première chose, je pense que c'est un film qui peut se lire à trois niveaux. Un niveau, je dirais, historique, un niveau d'un fait divers, familial. Un niveau ensuite mythique, une sorte de récit de la horde primitive. Et puis après, un niveau simplement matériel, brut, de pure matière. Alors, cette famille, vous la mettez en scène dans un présent tout à fait contemporain. Néanmoins, vous effacez quand même au maximum, je dirais, tout ce qui peut être anecdote historique et fait d'actualité. On est dans le monde présent, mais en même temps, pas plus que cela.
Non, c'est vrai que mon but premier quand je fais le film, c'est de faire un film à la première personne. D'autant plus que cette première personne, c'est une jeune fille qui va devenir cannibale. Ça me paraissait très très important d'être à son niveau de regard en permanence. Et du coup, effectivement, il y a des choses qu'on ne voit pas dans le film. On ne les voit pas parce qu'elle ne les voit pas ou qu'elle-même n'y prête pas attention à cet endroit-là. C'est quelqu'un qui va être de plus en plus, en fait, en plus tourné vers son corps, de moins en moins vers les autres. Et donc, en fait, il y a vraiment tout un champ de non-dit et de non exploré en off, dans le off du film, mais qui, pour moi, est justifié parce qu'on est dans son regard à elle. Typiquement, sur la vision en fait, qu'on a de cette scène familiale au début du film, on est avec quelqu'un à qui il arrive un micro-événement, cette boulette de viande, et qui va la perturber et qui va ajouter à l'appréhension et à la peur dans laquelle elle se trouve à l'idée de découvrir ce nouveau monde. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai aussi filmé son corps de près, les réflexes d'avoir les mains moites, de se frotter les mains entre les jambes, de frotter ses mains sur les jambes pour sécher sa sueur et tout ça sur les mains. Ses yeux, son regard, son appréhension de voir qu'elle cherche du regard par la fenêtre où est-ce qu'elle va et à quoi ça va bien pouvoir ressembler. Et du coup, dans ce cadre-là, en fait, les parents ne sont que des vecteurs. Et d'ordre général, sans trop en dire sur le film, les parents sont des vecteurs dans le film. Et ce sont des vecteurs qui l'amènent dans un endroit d'elle-même auquel elle va vouloir échapper.
Alors justement, dans cette voiture, ne la quittons pas trop vite, il se passe des choses, notamment au niveau des corps. Il y a quatre corps dans un habitacle. Il y a d'abord celui du chien, qui n'arrête pas de bondir et qui pèse. Donc là, il y a une espèce de viande un peu comme ça, harassante. Et puis, il y a une chose qui m'a frappé, je ne sais pas pourquoi, ce sont les pieds de la mère, qui sont gainés de bas et qui sont posés sur le tableau de bord de manière un peu étrange. Et qu'est-ce que vous avez voulu dire avec cette disposition ?
Bah, les pieds de la mer, c'est juste que moi, quand je suis dans une voiture, je me mets comme ouais. Ça. Voilà. Parce que c'est une manière, je trouve que c'est une position relaxe, quoi. Je lui ai montré qu'elle n'avait pas peur, qu'elle était détendue. Et du coup, pour le chien, en revanche, pour moi, il n'est pas du tout question de viande à cet endroit-là, pour ce qui est du chien. On est au tout début du film, on est face à un personnage qui est vierge, donc Justine, qui est complètement vierge de tout, qui est le bon produit de ses parents, qui va là où on lui dit d'aller, qui voit ce qu'on lui dit de voir. Et qui n'a aucune en fait connaissance d'elle-même, aucune connaissance de sa féminité et de son humanité. Et du coup, pour moi, les montrer en fait côte à côte à l'arrière de la voiture, c'est les montrer comme des égaux. Le chien et l'humain à cet endroit-là sont des égaux parce que c'est comme ça qu'elle se vit. Elle le dit à un moment dans le film. Elle exprime bien la manière qu'elle a de penser que nous sommes parfaitement des animaux autant que les vrais animaux. Et donc du coup, c'était pour montrer voilà, ce truc-là. Ce parallèle entre animalité et humanité, et là pour le coup c'est même pas parallèle, c'est cette équation, cette égalité entre les deux, que j'ai montré ça comme ça à ce moment-là. Mais alors pour pousser le truc un peu plus loin, je peux vous dire qu'au début, dans le scénario, enfin même dans la version définitive du scénario, mais on l'a pas tourné comme ça finalement parce que c'était assez chiant, il y avait deux chiens, mais bon la voiture était trop petite, il y avait deux chiens et j'avais fait en sorte, enfin j'avais écrit que les chiens étaient attachés avec des ceintures de sécurité comme elle. Que vraiment qu'il y ait une anthropomorphisation du chien à ce moment-là, puisque les parents anthropomorphisent aussi leurs animaux, donc elles les anthropomorphisent aussi naturellement. Donc ça, c'était très difficile à tourner, parce qu'aller mettre une ceinture de sécurité à un labrador, je peux vous dire que c'est très compliqué, enfin un golden retriever, et donc du coup, on a lâché l'affaire, parce que c'est trop complication. Mais c'était, voilà, l'idée, c'est qu'on est vraiment sur une égalité, à ce moment-là, à l'entrée du film, entre l'homme et l'animal.
En même temps, cette tenue décontractée de la mère, je trouve qu'elle contraste avec celle de la fille, parce que la mère, effectivement, est complètement relaxe, complètement à l'aise, mais la fille, elle arrive en territoire inconnu, et elle est complètement seule. Et je trouve que ce qui est fou, c'est que les parents l'accompagnent, mais on sent pas l'empathie de la mère. La mère a pas l'air de se faire du tout de soucis. C'était l'idée de marquer déjà cette frontière entre les deux.
Bah après, elle a du souci, elle s'en fera dans la scène d'après quand même, quand elle se rend compte que le relais de la famille, donc la grande sœur, n'est pas là pour l'accueillir. Là, pour l'instant, elle s'en fait pas trop, tout simplement parce qu'elle sait que, de toute façon, elle va pas quitter la famille, puisqu'elle l'amène dans les bras de quelqu'un d'autre de la famille, donc on reste entre nous. C'est entre soi, là, la rassure vachement, et c'est quand elle se rend compte qu'il n'est pas là que ça la fait flipper. Et en plus, parce que voilà, on est dans la tradition. Moi, c'est aussi un film qui parle beaucoup de la tradition, du poids de la tradition, de comment est-ce qu'on peut échapper à la tradition. Et est-ce que la tradition nous façonne d'une certaine manière ? Est-ce qu'on a une vraie possibilité de liberté face à ça ? De la même manière qu'il y a la tradition du bizutage dans l'école, et bien là, il y a la tradition dans la famille qui est que tout le monde est vétérinaire. Et donc, en fait, il n'y a aucun questionnement autour de ça. Tout le monde est vétérinaire parce qu'on doit être vétérinaire. Et c'est tout. Et donc, elle, en fait, elle est sur ce rail-là et pas du tout inquiète de la suite, puisqu'elle, en fait, sa fille s'apprête à avoir la même vie qu'elle. Enfin, ce qu'on croit.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Julia Ducournau, notre principale invitée ce soir dans Mauvais Genre, et c'est à l'occasion de la sortie mercredi en salle de son premier long métrage, Grave, auquel Mad Movies, Fausto Fazzullo, a réservé son grand faste.
Ses colonnes les plus amples.
Ses colonnes les plus amples.
Il aurait été absolument scandaleux. Que d'ignorer cet excellent film. Je me souviens, j'avais vu une petite vidéo en fait de Julia Ducournau lors de la présentation de son film à Toronto, parce qu'effectivement le film a fait la tournée des festivals et a été accueilli de manière extrêmement chaleureuse partout où il est passé.
Depuis Cannes, hein, depuis la semaine de la critique.
Exactement.
où on l'a tous découvert et où c'était formidable.
Donc l'onde de choc a été absolument internationale, et je me souviens un journaliste canadien dans l'exercice habituel de l'interview sur Tapis Rouge demandait à Julia Ducournau comment elle qualifierait son film, et elle a dit c'est un mutant, et c'est à mon sens la définition parfaite, c'est-à-dire que c'est un film qui ne prête allégeance à aucun genre et qui en même temps s'amuse à en épouser tous les contours. Et de fait, ça rend le film à la fois insaisissable et en même temps super riche. Et la personnalité de Julia Ducournau, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une cinéphilie extrêmement décloisonnée, qui regarde aussi bien des séries B gore que du cinéma d'auteur, même si c'est une mention qui ne veut pas forcément dire grand-chose puisqu'il y a de grandes séries B d'auteurs. Mais c'est exactement ce dont avait besoin, je pense, le cinéma genré français, pour pas dire cinéma de genre. C'est-à-dire quelqu'un qui soit capable, en fait, de faire le pont entre une cinéphilie un peu plus classique et, on va dire, des goûts un peu plus transversaux, alternatifs. Et on ressent tout ça dans Grave. C'est ce qui fait que le film est assez unique. On n'a pas affaire à un film de fanboy qui va bêtement dérouler toutes les citations des films préférés qui composent sa DVD tech. Non, on a quelqu'un qui a effectivement des références, mais qui s'en sert de manière tout à fait différente pour raconter une histoire qui fait à la fois écho, en fait, à son propre vécu, comme l'a dit justement Philippe, avec ses parents médecins et toutes les histoires qu'elle a pu entendre quand elle était plus jeune, et en même temps aussi un écho à ses propres goût cinématographique. Donc ça fait vraiment sens et ça rend Grave tout à fait unique en son genre. Ouais, en ces genres, un film unique en ces genres.
Oui, parce que Philippe Rouillet, il y a trois genres.
Oui, c'est ce que je disais en commençant. Parler, quoi, en parlera, voilà, mais... Comédie, body horror et puis tragédie. Et tragédie, c'est très important. Il y a ce mouvement lyrique qui se retrouve dans la musique.
Alors donc avec un début, on vient de l'entendre, donc plutôt tourné vers la situation familiale, la vision du monde à ras le regard de sa jeune héroïne, la situation disons, par rapport à l'école de vétérinaire, donc on comble le décor, cette espèce d'univers en rupture, puisque là c'est un début qui montre bien la rupture que va connaître l'adolescente héroïne, mais elle ne sait pas jusqu'à quel point on continue. Donc notre inspection et notre descente dans l'univers de Grave, la question posée par Sixtine Audebert.
Moi, j'avais lu plutôt comme une émancipation, comme une fable sur le passage à l'âge adulte, et je pensais que du coup, elle était un peu effectivement rattrapée un peu inconsciemment dans ce départ pour l'école vétérinaire par effectivement la tradition familiale et le poids de l'atavisme. Mmh. Et pour moi, ça passait en fait par la transgression en fait d'un interdit fondamental, donc en fait d'un tabou. Et donc, je voulais savoir si on pouvait considérer votre film comme une sorte de fable psychanalytique sur la famille et sur justement la structuration du moi en lien avec les autres et en même temps de la tribu et en même temps du reste du monde.
Totalement, pas mieux. Non mais c'est vrai, c'est très juste ce que vous dites, et moi je parle souvent de conte moral quand même, puis je rappelle que le personnage s'appelle Justine, donc on est sur un conte moral inversé. Donc non, c'est très juste, évidemment qu'il y a une dimension psychanalytique très forte, très présente dans le film. Je suis moi-même férue de psychanalyse, j'ai énormément de bouquins de psychanalyse et tout ça, donc c'est forcément présent dedans, et que quand j'ai recours en fait au mythe fondateur, quand je parle tout le temps que des mythes fondateurs ou de la Bible ou de tragédies grecques et tout, c'est quand même le matériau premier de toute psychanalyse, quoi, de partir vraiment sur la base de ce qu'on nous dit de l'humanité, de la manière dont l'humanité est décrite, donc c'est totalement juste.
Justement, deuxième étape, effectivement, cette école de vétérinaire, on note que la direction en est absente. On voit très peu le directeur, les sous-directeurs, toute la hiérarchie est absente, ce qui renforce la dimension mythique, archaïque, quasi primitive. On a l'impression que les vétérans sont la horde dominante, qu'ils sont là pour faire subir l'initiation aux nouveaux venus. Donc là aussi, il y a une volonté de saisir cette école vétérinaire, non pas comme une institution scolaire d'aujourd'hui, mais plutôt comme un endroit mythique et qui nous raconte une fable des origines.
Oui, alors la première réponse quand même, c'est, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi parce qu'on est à hauteur d'elle. Donc on est dans sa tête à elle et on voit en fait ce qu'elle voit. Donc on est vraiment l'idée. Et à un moment j'ai essayé évidemment l'idée de faire une réunion de BDE en disant que la petite elle a un problème, peut-être qu'il faudrait la convoquer. Je pense que tout à coup on n'est plus du tout dans le même film, on n'est plus dans sa tête. Enfin ça n'a aucun intérêt. Donc c'est déjà la première raison, c'est celle-ci. La deuxième, c'est que effectivement après pour le lieu que j'ai choisi, déjà c'est que j'ai choisi un lieu qui n'est pas connoté en France. France. J'ai pas choisi la typique grande école qui ressemble un peu à la Sorbonne, qui a des boiseries, des trucs que nous on pourrait identifier tout de suite. J'ai voulu un décor, et c'est pour ça aussi que je suis allée chercher en Belgique, un décor qui nous on n'avait jamais vu. Et que du coup on peut fantasmer énormément, dans lequel on peut projeter énormément de choses, et qui deviendrait un décor mental. C'est renforcé par le fait que dans cette université où on a tourné, il y a la nature autour, c'est un endroit qui est coupé de la ville, qui est en fait un entre-soi. Et la notion d'entre-soi, évidemment, est très importante, parce que dans l'entre-soi, il y a aussi le déterminisme, il y a la filiation, il y a l'atavisme, il y a la tradition, il y a tout ça. Donc c'était très important pour moi de le figurer aussi dans le décor, cet entre-soi. Donc c'est pour ça voilà, qu'on a ce sentiment d'espace mental. Alors, pour figurer le mythe, moi, j'ai jamais pensé à une sorte d'Éden ou un truc comme ça, j'avoue, pas du tout. Mais vraiment l'idée que de plus en plus, on soit dans son espace mental à elle, quoi. Même s'il n'est pas du tout question, si vous voulez, d'une crise de folie où finalement il ne s'est rien passé, il s'est absolument tout passé et ce n'est pas dans sa tête. Mais en fait, dans l'expérience organique que je propose de suivre ce personnage et d'avoir de l'empathie pour elle, de créer une empathie pour elle, de la garder, de la comprendre, d'avoir peur pour elle et tout ça, il était hyper important pour moi qu'on rentre complètement dans sa tête et qu'on rentre dans son monde. Donc c'est pour ça qu'il y a ces trucs où on a l'impression en fait d'élision d'une certaine manière ou de trucs qui sont laissés de côté, mais tout simplement parce que je voulais pas qu'on sorte de son point de vue.
En même temps, cet organique, il est très matérialisé par l'école vétérinaire et sa géographie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, au détour d'un couloir, on déboule dans un truc d'examen, on se retrouve avec une vache, quelqu'un qui a un point dans le derrière de la vache, on est en train d'autopsier un animal, on est directement, on passe quasiment du dortoir à l'organique. C'est l'idée d'avoir enlevé toutes les frontières.
Exactement. D'avoir constamment, visuellement, ce questionnement que la différence entre l'homme et l'animal. Et finalement, la ligne est très très fine et il y a quasiment aucune différence, hormis celle qu'elle va découvrir en faisant justement l'expérience de son animalité jusqu'au bout. Donc c'était vraiment l'idée de confondre effectivement les frontières entre les corps morts des animaux, des hommes, vivants des animaux, des hommes et tout ça. Et que, avec évidemment l'idée toujours de la vie et de la mort qui se côtoient en permanence, et de peut-être une forme d'imminence de la mort, ou en tout cas de la mortalité. Et cette préscience quasiment permanente de la mortalité à venir et de la condition humaine tout simplement, et aussi du fait qu'elle pourrait tuer, toujours de garder cette idée-là qu'elle pourrait tuer. Et donc du coup, alors, c'est totalement comme ça que je l'ai filmé. Après, je trouve que c'est intéressant parce que moi, c'est aussi pour ça que j'ai choisi une école véto. C'est-à-dire que, hormis un parti pris qui est, théorique, donc ce que je dis sur l'animalité, l'humanité, tout ça, l'école véto, moi, quand je suis allée là pour la première fois, ce qui m'a fascinée, c'est qu'il y a des animaux partout. C'est-à-dire qu'on croise, je sais pas, on met des animaux exotiques en plus. Enfin, il y a des trucs, c'est très...
Comme quoi, par exemple ?
Qu'est-ce que j'ai vu ? Après, il y a le classique, c'est les chevaux, les vaches, les cochons, les ânes. Enfin, tous les trucs de la basse-cour, plus les chevaux. Et qu'est-ce que j'ai vu ? Je me demande si j'ai vu un alpaca, une fois. Mais voilà, parce qu'en fait, les gens, ils viennent faire soigner leurs animaux là. Donc, on est dans la campagne, il y a des gens qui ont des fermes d'alpaca ou des trucs comme ça, tu vois. Et ce qui est vachement drôle, c'est que... les frontières sont en effet brouillées dans ce lieu. Donc si tu veux, c'est pour ça que j'ai aimé travailler là-bas, c'est parce que ça abondait dans mon sens, et que c'est pour quelqu'un de la ville comme moi qui débarque là, c'est complètement fou, quoi. On a l'impression un peu de... C'est dans quel film de catastrophe où il y a un zoo qui est ouvert, là, et on voit tous les animaux comme ça courir dans la ville à New York ou un truc comme ça ?
Bah, il y en a plusieurs, hein.
Ils le font à chaque fois, genre...
Mais on voit dans l'armée 2012, des douze singes, dans l'armée des douze singes.
Voilà, exactement, dans l'armée, exactement. Et ben ça fait exactement cette impression-là, comme dans l'armée des douze singes. C'est hyper étonnant.
De la communion, si j'ose dire, où elle en vient à mastiquer, à mordre, à manger la chair de sa sœur. Ouais. Alors parlons du Rhin, alors. Ouais. Pas le passage du Rhin, si j'ose dire.
Plusieurs choses, parce qu'on parlait de première communion, donc je vais quand même plutôt rebondir sur ça avant de parler du Rhin. Mais c'est vrai que le cannibalisme, moi c'est ça qui était venu à l'idée au début, quand j'ai décidé de traiter ce sujet-là, et je me suis dit c'est très marrant parce que les cannibales sont des gens qu'on va vraiment rejeter hors de l'humanité, qu'on va qualifier d'inhumains, qu'on va qualifier de monstrueux, dont on parle à la troisième personne dans les films, comme si c'était des êtres venus d'ailleurs et tout ça. Alors que clairement, tu les regardes physiquement, ils sont humains, hein. Ça, y a pas de doute possible. Mais en plus, le paradoxe est tel que, quand même, une fois de plus, dans tous nos mythes fondateurs, dans la Bible et tout ça, il n'est question que de ça. Et le fondateur de la religion judéo-chrétienne, il nous a dit « manger ceci est mon corps ». Il y a un paradoxe absolument hallucinant qu'on va respecter, on va pas se sentir effrayé par cette voie-là, mais par contre, l'idée de cannibalisme révulse tout le monde, alors même qu'elle fait partie de notre culture d'une certaine manière, et quasiment les mythes fondateurs n'ont jamais menti sur la question, sur le fait que ça appartenait à l'humanité. Je trouve ça très intéressant quand on parle de première communion. Parce que donc c'est l'hostie, donc c'est ceci est mon corps. Et parce que ça ramène à ce paradoxe-là, qui est qu'on ne veut pas voir ce qui est en nous. Et c'est vrai que moi, ce film, c'est aussi un peu pour ça que je fais, c'est que je trouve que d'ordre général, en tant qu'humain et en tant que société, on grandit pas beaucoup en refoulant ce qu'on est. Et du coup, je m'interroge beaucoup sur qu'est-ce que ça dit de nous de refouler ça. Pourquoi est-ce qu'on a peur de ça? Pourquoi est-ce que le cannibale nous regarde dans les yeux? Nous regarde dans les yeux parce que si la ligne entre l'animal et l'humain est très fine, alors entre un humain et un humain cannibale, elle l'est encore plus. Et c'est ça qui est terrifiant.
Surtout que dans votre film, il y a toutes les formes, je dirais, d'alimentation, de manducation. Il y a celle d'une chair qui n'est pas humaine, celle d'une chair qui est humaine mais qui n'est pas la sienne, et sa propre chair. Donc il y a véritablement une volonté de mettre en scène toutes les formes de phagie, toutes les formes de zoophagie.
Ouais, d'entre-dévoration, il est beaucoup question de ça, mais c'est drôle parce que d'ailleurs, c'est toujours sous un prisme extrêmement... terrifiant qu'on place ce sujet-là, mais c'est vrai que pour moi, dans ce film, il y a aussi beaucoup d'amour. Et que on parlait tout à l'heure de la sexualité, du cannibalisme. À la limite, pour moi, le cannibalisme, c'est plus un trop-plein d'amour qu'un trop-plein d'envie sexuelle. C'est évidemment de l'ordre de la pulsion, mais qui a dit qu'il n'y avait que la sexualité qui était de l'ordre de la pulsion? L'amour, le trop d'amour peut être aussi de l'ordre de la pulsion. D'ailleurs, voilà, les gens qui stalkent les autres gens, enfin, qui les poursuivent dans la rue, ou des trucs comme ça, on est sur des choses incontrôlées, des comportements incontrôlés. Et du coup, moi, ça parlerait, c'est plus ça, en fait, dans l'entre-dévoration qui m'intéresse. C'est le fait qu'on veut faire un avec l'autre, et que quand l'autre il décide de vivre pour soi, ou en tout cas de se construire soi, il y a un arrachement qui est forcément très 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 douloureux. Et de la même manière, quand il y a consommation de sa propre chair, dans le film, la consommation de la chair est d'abord cette manière de retourner les choses contre soi et de ne pas heurter. Pour moi, j'y vois un acte, pour le coup, c'est l'entrée dans l'humanité pour moi. C'est-à-dire de dire, je ne vais pas faire subir ça à l'autre, je vais me retourner contre moi-même, je ne peux pas me contrôler, mais au moins, je ne suis pas un animal, au moins je ne réponds pas à un besoin primaire aux dépens de la vie de quelqu'un. Et donc, du coup, c'est surtout ça, mais après, sur un point de vue plus symbolique, c'est vrai que le goûter sa propre chair... Elle le fait au moment où elle jouit. Enfin, on ne peut pas faire plus onanique que ça, comme geste, en fait. Donc c'est vrai que là encore, on est sur un truc de... un trop d'amour, un trop d'émotion, un trop de tout, même à l'égard de sa propre personne, quoi.
C'est vrai que l'autodévoration, c'est au moment de l'orgasme, donc ça. Mais je pense au fait de manger la chair de sa sœur, qui est sa chair également. Alors comment vous avez... Vous en êtes arrivé à cette mise en scène où elle est assise par terre, au pied de ce petit placard, un petit évier, et qu'elle regarde d'abord le doigt, et elle joue, enfin, presque, elle mordit, et puis elle y va. Donc il y a véritablement un moment d'hésitation, et là on sent que le personnage est en train de passer le miroir.
Ouais, l'idée c'était justement ça, c'était vraiment de... Une fois de plus, moi je n'arriverai pas à m'identifier à quelqu'un qui se rue sur un doigt et qui va le manger sans se poser de questions. Pour moi, c'est impossible. Et j'aurais pas du tout compris le personnage si elle avait fait ça. Donc il fallait que je reste, au fait, une fois de plus, au niveau de mon personnage et au niveau d'identification du spectateur. Et j'ai dit à Garance, je dis voilà, c'est simple. Elle, pour l'instant, elle a juste un doigt. Elle-même ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle a juste un doigt. Je lui ai dit, bon, il y a deux choses. Quand t'as un doigt, il y a les gens qui vont le mettre dans un bol, qui vont... le mettre de côté, qui vont pas le regarder, qui vont attendre que les gens arrivent. Et il y a les gens qui vont se dire, bah, c'est peut-être la seule occasion que j'ai de ma vie de regarder à l'intérieur d'un doigt. Mais Justine, elle est comme ça, parce que Justine, elle est véto, Justine, elle travaille à la médecine, Justine, ça l'intéresse de voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un doigt. Du coup, au début, je lui dis, voilà, c'est ça, c'est juste, c'est peut-être, je dis à Garance, hein, à l'actrice, je lui dis, voilà, prends ce doigt, et c'est peut-être la seule occasion de ta vie que tu auras de regarder à l'intérieur d'un doigt. Puis le doigt était quand même très bien fait, donc du coup, elle s'est vraiment laissée prendre au jeu. Et quand elle regarde vraiment comment c'est foutu un doigt humain, quoi. Et puis après, il y a tout le truc où elle... Bah ouais, mais c'est vrai que l'idée, en fait, justement, que ça vienne sur quelque chose de très ludique, de très, finalement, ouais, reconnaissable. C'est-à-dire que même si, à certains, l'idée de regarder comment ça fait à l'intérieur d'un doigt peut paraître loufoque, voilà, pour certaines personnes, mais c'est toujours plus identifiable et plus facile de s'y identifier qu'à quelqu'un qui va juste le prendre et le foutre dans sa bouche. Alors ça, par contre, non. Parce qu'on n'est pas dans la déviance, là, on est vraiment dans un truc très très progressif. Et d'ailleurs, même quand elle passe à l'acte, elle est la première surprise. Parce que c'est pas planifié, et moi je voulais pas vous montrer. Quelque chose de planifié, c'est vraiment dans la déviance, dans la perversité, dans un côté pour le coup qui était pas mon personnage.
Elle n'est ni dans la révélation violente de la pulsion, je te vois, je te mange, je saute dessus, je la mange. Non, elle n'est pas non plus dans cette espèce de prédation calculée, genre Hannibal le cannibale, tiens, un tel devrait avoir un foie exquis. Là, on est dans une sorte de brusque basculement qui prend d'abord la forme de choses de ludique et puis après de tout à fait différent.
C'est quelqu'un qui se découvre, il faut se rappeler qu'on parle de quelqu'un qui se découvre pendant tout le film, qui essaye de savoir qui elle est au sein de tous ces déterminismes qui lui pèsent sur les épaules. Et bah, elle, voilà, c'est ça, c'est juste qu'en fait on est vraiment au niveau du personnage, genre elle regarde le truc, elle dit bon bah à quoi ça ressemble ce truc, tout simplement.
Dans cette découverte va se lier la jouissance. La jouissance, qui est la suite du film. C'est-à-dire que ce qui est passionnant dans le film, c'est qu'il y a cette progression sans cesse. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous l'appelez Justine, pour la dimension d'évolution du personnage et de confrontation à ça, cette idée de jouissance.
Bien sûr, Justine, elle finit par y prendre plaisir. Mais après, c'est un truc, Justine et Sévis viennent de l'extérieur. Sur elle, enfin Justine de Sade, je veux dire.
Ouais.
Les Sévis viennent de l'extérieur et elle finit par y prendre goût au final. Alors que là, on est sur finalement une nature qui devient autonome chez elle, quoi. Son corps qui devient autonome et qui finalement la force à faire des trucs qu'elle ne veut pas faire. Et donc du coup, le mal est à l'intérieur. Et effectivement, elle, c'est pas qu'elle finit par y prendre goût, c'est qu'elle y prend un goût d'emblée, mais qu'après, elle comprend qu'elle peut pas rester comme ça, en fait. Elle comprend que c'est pas qui elle est, en fait. Et c'est ça toujours la question, est-ce qu'on est nos pulsions? Où est-ce qu'on est le combat contre nos pulsions? Est-ce qu'on est dans le corps? Est-ce qu'on est dans l'esprit? Est-ce qu'on est dans le désir? Où est l'humain dans tout ça?
Ah, Julia Ducournau, micro de Mauvais Genre, à la veille de la sortie en salle de son film Grave. Alors Philippe Houillet, c'est vrai, c'est pas un film sadien du tout. On a parlé de Justine. C'est un film que moi qui touche vraiment une espèce de vieux fond archaïque de l'individu. Quand on parle de pulsions, les personnages sont vraiment saisis à la hauteur de leurs pulsions.
Oui, mais ce que je trouve beau dans le film, c'est comment on peut finalement jouir de ses pulsions. C'est-à-dire qu'il y a un côté moral, c'est-à-dire que le personnage se pose des questions de comment vivre son cannibalisme, mais en même temps, c'est pas les types de la cordillère des Andes où ils se retrouvent à manger leurs camarades pour survivre. C'est pas du tout la problématique du personnage. Et j'aime la manière dont le film est construit, qui rejoint en fait, une problématique du fantastique, qui est la question du monstre et l'humanité du monstre. Et nous, spectateurs, comment on se positionne par rapport à cette humanité-là? C'est quelque chose qui me touche énormément dans le film.
On retrouve pour la dernière partie de cet entretien Julia Ducournau. La question a évidemment roulé sur les acteurs de ce film. J'entends les acteurs techniques et notamment de son chef opérateur Julia Ducournau.
Il faut que vous nous parliez un mot de votre chef opérateur et du travail que vous faites avec lui, parce que c'est quand même une démarche très particulière. Vous avez été chercher un flamand.
Ouais, parce que en fait, moi j'avais envie d'une lumière, ben, un peu comme dans le reste de, enfin dans mes deux films précédents, d'une lumière qui expose les corps en fait, et plutôt que d'essayer de les cacher, et surtout qui les esthétise pas. Et qu'il est au contraire accentue sa trivialité, donc les cernes, les pores, la sueur, les poils et tout ça. Je voulais que tout ça ressorte énormément. Et du coup, en fait, j'avais vu La Merditude des choses de Felix von Groningen, Et c'est vrai que j'avais de retrouver, bon, même si c'est pas du tout sur la, on n'est pas sur la même lumière, mais en tout cas ce côté brut, là je l'avais vachement retrouvé dans ce film. Et donc du coup quand j'ai vu Ruben, je savais que c'était lui qui avait fait ça et il m'intéressait déjà. Et puis après on a parlé, voilà, de d'intention, lumière et tout ça. Puis c'est comme ça qu'on est parti. Puis moi je lui ai dit, voilà, il y a plusieurs choses dans le film. Parce qu'il y a plusieurs genres dans le film. Et il ne faut pas qu'on ait l'impression d'avoir trois films. Il y a trois genres, mais ces trois genres-là, c'est un seul corps.
Les trois genres, c'est...
C'est comédie, drame et body horror. Et du coup, moi, c'est pendant trois ans d'écriture, j'ai tout fait en sorte pour que tout ça soit cohérent, que tout ça se marie l'un avec l'autre, parce que je pense qu'il n'y a pas de, de genre sans rire et il n'y a pas de rire sans drame. Voilà, cette trinité-là, il était important qu'on la montre comme un élément... à part entière. Mais par ailleurs, il se trouve que c'est vrai que j'ai des scènes de grosse comédie et j'ai des scènes de genre, donc comment est-ce qu'on fait pour lier tout ça à la lumière? Donc moi je lui ai dit qu'il fallait que je voulais, surtout en plus par souci de création d'empathie une fois de plus pour mon personnage et tout, que les scènes les plus genrées, donc les scènes de cannibalisme, soient filmées de manière très réaliste, sans bizarrerie, pas naturaliste mais réaliste, c'est-à-dire avec peut-être au néon, mais le néon on le voit dans le champ, quoi, s'il y en a un. Et il peut être rouge si on veut, mais il faut qu'on le voit dans le champ. Bon là en l'occurrence il est pas rouge, mais ce que je veux dire, c'est que c'était important qu'on puisse raccrocher des sources visibles à ce moment-là et qu'on soit pas perdu dans un délire un peu justement trop mental et
comme
trop
métam. Rouge.
Oui, là pour le coup, on est dans sa tête. Mais là, moi, sur les scènes de genre, pas du tout. Il fallait vraiment qu'on puisse se dire, voilà, ça c'est en train de se passer sous nos yeux. On est dans la scène avec elle. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et par contraste, pour que ces scènes-là n'apparaissent pas au milieu d'un un naturalisme omniprésent, ils n'apparaissent pas, je veux dire, comme un cheveu sur la soupe, que tout à coup on ne dit pas, ah bah tiens, tout à coup c'est un film de genre. Et bah du coup, il a fallu créer une tension qui tendait vers le genre dans les scènes domestiques ou dans les scènes comiques, dans les scènes pas du tout, du tout genrées pour le coup, et donc créer des sortes d'accidents lumière ou alors de faux raccords où on va se retrouver avec, pour le coup, une lumière rouge en plein après-midi en extérieur alors qu'il n'y a aucune raison d'en avoir une là, ou alors d'avoir des faux raccords dans sa lumière dans sa chambre et d'avoir une lumière qui change en fonction de son état intérieur à elle et tout ça. Tout ça crée une bizarrerie, qu'on la remarque ou non. Même si on la remarque pas, c'est quelque chose qui fait que on sent qu'il y a une tension, en fait, que les scènes ne sont pas naturalistes, qu'on est dans un monde où il y a quelque chose, une fois de plus, qui est imminent, qui arrive. Et donc, du coup, quand les scènes arrivent, on a une vraie arche, quoi, de l'un à l'autre. C'est comme ça qu'on a travaillé.
C'est vrai qu'il y a ce cinéma flamand récent, Bouled, par exemple, La merditude des choses, Belgica, qui est un cinéma qui, dont la photo accentue la gravité au sens du poids, le côté pondéral des choses, l'épaisseur, le côté charnu. Et ça donne peut-être une unité générale qui vous permet de transcender tout ce découpage du récit en genre, ce qui pourrait faire un film éclaté. Là, il y a une matière commune. Moi, c'est ça qui m'a semblé fort dans ce film, dans votre film. C'est, grosso modo, c'est un film sur la matière. C'est un film sur le matériau, c'est-à-dire le matériau humain, le matériau zoologique. Et ça vous permet de passer d'un genre à l'autre sans problème, puisqu'il y a une forte homogénéité plastique autour de la notion de matériaux, et après vous faites ce que vous voulez sur le plan du récit.
Bah, c'est juste, parce que c'est vrai que moi, je suis très très obsédée par l'idée de filmer les corps et de comment les filmer, bah, avec toujours ces questionnements, donc au centre, qu'est-ce que c'est qu'être humain? Et surtout aussi dans le souci de créer un rapport direct entre le corps des personnages et le corps des spectateurs. Et donc de créer des réactions, de provoquer des réactions physiques chez les spectateurs, qui après vont poser le questionnement, pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça devant telle image? Pourquoi est-ce que moi je réagis comme ça devant telle image, mais mon voisin il réagit différemment? Et pourquoi est-ce que même si on réagit différemment, ce sera jamais pour la même raison, parce qu'on n'a pas la même expérience physique du monde? Et donc du coup, c'est très important pour moi pour créer ça chez le spectateur, pour créer ce questionnement-là, enfin d'abord ce ressenti-là et après ce questionnement-là, c'est très important pour moi de filmer les corps de manière absolument poreuse d'une certaine manière, c'est-à-dire sans fantasme. Et surtout quand on parle de corps féminin, entre parenthèses. Ça, c'est important. Quelque chose qui soit pas sexualisé pour plaire aux hommes et qui soit pas idéalisé pour donner des objectifs aux femmes. Et du coup, parce que je trouve qu'il n'y a aucune vérité là-dedans, ni dans l'un ni dans l'autre, je pense qu'on ne peut pas s'identifier réellement de manière organique et intrinsèque à un mensonge. Et d'ailleurs, mon film parle de ça aussi. C'était important pour moi de montrer cette trivialité-là, donc grâce à la lumière évidemment, grâce au plan aussi. Le choix du scope n'est évidemment pas anodin. Je vous parlais de western tout à l'heure, c'est vrai que j'adore les westerns, mais je trouvais ça marrant justement de filmer des espaces très large en extérieur, mais à l'intérieur, d'avoir un écran très grand qui soit vraiment boursouflé de chair et de peau tout le temps, et de poils et tout ça, qu'on soit vraiment dans une espèce de trop-plein, en fait, de corps à l'image. Et il me semblait que le scope, voilà, le scope adapté à la géographie du corps me paraissait absolument intéressant à utiliser. Et du coup, voilà, et sur cette trivialité-là, donc c'est vraiment, c'est comme avec le genre, en fait. L'idée de se dire qu'est-ce que je montre et qu'est-ce que je ne montre pas. Pour de telle sorte à ne jamais céder à la surenchère. De la même manière que je déteste la violence gratuite, parce que ça ne m'inspire pas, puis que ça ne m'évoque rien, enfin, je m'en fous. De la même manière, la surenchère, en fait, de esthétique, de montrer du corps juste pour montrer du corps, ça ne m'intéresse pas non plus. Pour moi, l'idée est vraiment de créer cette communion, justement, entre les corps à travers l'écran. Et donc, voilà, et donc, l'idée, par exemple, voilà, de filmer un entrejambe poilu en train de se faire épiler en très gros plan. Au-delà du fait que je me suis dit, tiens, j'ai pas beaucoup vu ça sur mes écrans, donc j'avais quand même envie de le filmer, parce que je voulais voir ce que ça donnait moi-même, puisque je n'avais jamais vu ça. Et puis en plus, voilà, je trouve que tout à coup, on redécouvre une géographie du corps qui peut parler à tout le monde en dehors de l'expérience qu'elle nous propose, c'est-à-dire qu'en dehors de l'épilation elle-même. On n'a pas besoin d'avoir vécu une épilation maillot pour avoir mal quand on voit des poils tirés sur cette entrejambe-là. De la même manière qu'on n'a pas besoin d'être soit un homme, soit une femme pour apprécier d'une manière ou d'une autre l'origine du monde de Courbet. Enfin, je veux dire, chacun le vit à l'aune de sa propre expérience, et c'est de l'art et de sa machin. Il n'y a pas un genre à qui ça plaît plus que l'autre. Et ben là, de la même manière, quand je filme cette entrejambe, il n'y a pas de raison que ça s'adresse plus aux femmes qu'aux hommes. On est face à une image qui provoque quelque chose de physique, et on est tous égaux devant cette réaction physique.
Julia Ducournau au micro de Mauvais Genre, à la veille, je le répète, de la sortie de son premier long métrage, Grave, à ne surtout pas rater, un film aux confins, je dirais, du psychodrame familial, du film d'horreur cannibale et de la tragédie contemporaine archaïque, on peut dire universelle. Grave de Julia Ducournau, donc en salle à partir de mercredi. On termine cette émission de Mauvais Genre, bien évidemment, avec Christophe Beer.
Pour un amateur de catch, rien n'est plus beau que la fureur vengeresse d'un combattant trahi qui se jette avec passion sur l'image cinglante de la déloyauté. Citation d'un célèbre texte de Roland Barthes publié dans Esprit en 1952, quand le catch était un spectacle très populaire qui remplissait l'Élysée-Montmartre, la salle Wagram, autant que la foire commerciale de Lille, le chapiteau des sports de Frouard, sponsorisé par le Pernod 45, le cirque municipal de Troyes, soutenu par le Pastis 51, ou l'hippodrome municipal de Douai, arrosé par Ricard. Elle est en exergue de Catch, l'âge d'or 1920-1975, album amoureux de Christian-Louis et Climont, aux éditions Huguin et Menin. Coupures de presse, photos souvenirs et affiches de combat font revivre des décennies de sueur et de liesse populaire, depuis les premiers costauds des foires jusqu'aux vedettes célébrées par l'ORTF. Champions olympiques en lutte gréco-romaine, boxeurs, rugbymen, déménageurs sont les acteurs pectoraux d'une comédie manichéenne, soignant aussi bien leur gauche que leurs expressions. D'une torsion de mâchoire, ils traduisent la colère. D'un froncement de sourcils, la perfidie. D'un regard franc, la dignité. Le bien contre le mal, enfermé dans leur registre. Jésus de Hérédia, le fantôme de l'opéra, Jean Valjean, la bête humaine, le boucher de Budapest, Nikolaï Zigoulinov, le berger bulgare, l'étrangleur de Vaucresson, le braconnier des Ardennes, tous au service d'un extraordinaire simulacre qui exige de l'entraînement et qui n'évite pourtant pas les lésions ostéo-articulaires. Ces prestidigitateurs roués, calculateurs bruyants, ne lésinent jamais sur le vacarme des chutes. Ils éructent, bavent, tourneboulent les yeux pour rendre les prises toujours plus effrayantes. Ils décomposent en artistes, car les vrais mouvements trop rapides sont rarement spectaculaires. Rédempteur ou patibulaire, le catcheur étudie sa mise. Robert Duranton, le triceps luisant, 1m80, 103 kg, porte le peignoir chamarré surhaussé d'un col Médicis. L'affreux Quasimodo grimace dans des haillons de cour des miracles. Emprunté au Mexique, le masque prolifère dès 1957. La notoriété de l'ange blanc, venu allonger les affreux, est phénoménale. Ses cachets conséquents, sa cagoule de soie blanche retirée, il ne fera plus rêver. Son pire adversaire, le bourreau de Béthune, cagoulé de rouge sang. Le géant ferré, 2m24 et 230 kg, n'aura pas besoin d'artifice. Son acromégalie est déjà un masque. Le catch est un sideshow sidérant qui se nourrit de répulsion et de ferveur.
Voilà, merci Christophe. Bienvenue au Catch, une autre approche de la chair et de la dimension pondérale et violente de la chair. Merci messieurs. On se retrouve d'ailleurs au Salon du Livre, le samedi du Salon du Livre, entre 11h et midi, enregistrement de Mauvais Genre, et on parlera de Lovecraft et également de quelques sorties DVD hautes en couleur. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Jean-Louis Delon, Claire-Martin Dugard, Chloé Leblond, Sixtine Audebert, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo, Christophe Bire et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve évidemment samedi prochain. Je serai en compagnie d'Olivier Barre de Cabusson. Nous évoquerons justement des histoires de serial killers, mais au cœur du Jardin de Versailles. Ce sera en effet une émission placée sous le signe de la grande exposition Jardin qui se déroule et qui s'ouvre très bientôt au Grand Palais à Paris. D'ici là, on ne quitte pas France Culture où l'on retrouve Amaury Chardot pour son émission Métronomique.